Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans la saga des Habsbourg, Jean Descartes propose une vaste synthèse historique consacrée à la maison de Habsbourg. Depuis ses origines médiévales en Argovie jusqu'à la disparition de l'Autriche-Hongrie et à la chute de Charles Ier. Paru notamment dans l'édition Tempus Perrin de 2013, ISBN 978-2262-041-43. Ce récit de près de 6 siècles et demi suit une dynastie qui a pesé durablement sur l'équilibre européen. L'ouvrage relève moins de l'étude institutionnelle spécialisée que de la grande histoire dynastique. Il articule les destinées individuelles des souverains, les mariages politiques, les conflits, les successions et les transformations territoriales. Historien et biographe des cours européennes, Jean Descartes privilégie une narration accessible. Nourri par des archives, des visites de lieux liées à la famille et des témoignages recueillis auprès de Zita et d'Otto de Habsbourg. Son objectif est de restituer à la fois l'ampleur politique de la dynastie et la dimension humaine de ses figures majeures. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, d'une famille d'Argovie à une puissance européenne, la longue construction dynastique. Le premier intérêt de l'ouvrage est de remettre les Habsbourg dans la durée. Jean Descartes part d'une famille issue de l'espace suisse en Argovie pour suivre son ascension progressive vers le centre du pouvoir impérial. Cette perspective évite de réduire la dynastie à quelques images célèbres, Charles Quint, Marie-Thérèse, François-Joseph ou Sissi, et montre qu'une puissance familiale ne naît pas d'un seul règne. Elle se construit par l'accumulation des droits, des terres, des alliances et des positions électives. Les Habsbourg parviennent ainsi, entre le XVe et le XVIIIe siècle, a occupé très fréquemment la fonction impériale dans le Saint-Empire romain germanique. L'auteur fait ressortir le caractère composite de leur domination, elle ne repose pas sur un état national homogène, mais sur des possessions diverses, reliées par la personne du souverain et par la continuité familiale. Cette configuration explique à la fois leur exceptionnelle longévité et leur fragilité. Gouverner des territoires éloignés, plurilingues et dotés de traditions propres impose une négociation permanente avec les élites locales. La saga devient donc une manière de comprendre l'Europe d'avant les nations modernes, un continent structuré par les maisons régnantes, les droits héréditaires et les équilibres entre principautés, royaumes et empires. Deuxièmement, mariage. Héritage et élection, les instruments concrets de l'expansion habsbourgeoise. Jean Descartes met en évidence une réalité essentielle de la politique dynastique, les Habsbourg étendent souvent leur influence moins par une conquête directe que par la combinaison des unions matrimoniales, des successions et des élections impériales. Le mariage est ici un outil de gouvernement autant qu'une affaire familiale. Il peut transmettre un territoire, consolider une revendication ou créer une alliance dont les conséquences s'étendent sur plusieurs générations. La montée en puissance de la branche espagnole, l'agrégation de possessions bourguignonnes et l'enracinement autrichien s'éclairent par cette logique d'héritage croisé. Mais le livre ne présente pas cette stratégie comme une mécanique infaillible. Chaque succession ouvre aussi des rivalités, car les droits dynastiques concurrents, les intérêts des puissances voisines et les résistances locales peuvent transformer une transmission théoriquement légitime en crise politique ou militaire. L'élection au Saint-Empire rappelle également que l'autorité habsbourgeoise ne dépend pas uniquement du sang, elle doit être reconnue, négociée et financée. Cette attention aux moyens réels de la puissance donne de la substance au récit. Elle explique comment une famille a pu régner sur des ensembles si variés, tout en soulignant le coût politique de cette ambition guerre de succession. Diplomatie incessante et tension entre l'unité recherchée par la cour et l'autonomie des pays gouvernés. Troisièmement, deux branches, plusieurs espaces pensaient ensemble l'Espagne, l'Autriche et le Saint-Empire. La force historique des Habsbourg, à leur inscription, tient à leur inscription dans plusieurs cadres politiques à la fois. L'ouvrage aide à saisir pourquoi il est insuffisant de parler d'un unique empire habsbourgeois sans distinguer ses composantes et ses évolutions. À l'époque de Charles Quint, la dynastie relie notamment les héritages espagnols, bourguignons et autrichiens, tout en exerçant la dignité impériale. Cette concentration de titres et de territoires alimente l'image d'une monarchie universelle, mais elle rend aussi le gouvernement difficile les intérêts de l'Espagne. Des Pays-Bas, des possessions italiennes, des terres autrichiennes et du Saint-Empire ne se confondent pas. La séparation ultérieure entre les branches espagnoles et autrichiennes ne met pas fin à la logique familiale, elle en modifie les formes. Jean Descartes restitue ainsi une histoire européenne faite de connexions entre aires fixes, pour un lectorat français. Le livre rappelle aussi que l'histoire habsbourgeoise ne se déroule pas hors de toute relation avec la France, la Flandre, la Franche-Comté et le Roussillon, à des périodes différentes relevées de domination habsbourgeoise. Cette approche éclaire les rivalités franco-habsbourgeoises sans les transformer en clé unique du récit. Elle souligne surtout que les Habsbourg furent un facteur majeur de circulation politique et culturelle à l'échelle continentale. Quatrièmement, le gouvernement de la diversité grandeur impériale et limite d'un ensemble multinational à travers la durée de la dynastie. La saga des Habsbourg conduit à examiner le problème central du gouvernement d'une pluralité de peuples, de langues, de confessions et de traditions politiques. Les possessions autrichiennes, puis l'Empire des Habsbourg et l'Autriche-Hongrie ne correspondent pas à l'idéal ultérieur d'un État-nation unifié. Leur cohésion repose sur la monarchie, l'administration, l'armée, les compromis avec les corps politiques locaux et un imaginaire impérial commun. Jean Descartes montre ainsi l'attrait durable d'un monde où les appartenances restent superposées, on peut être attaché à une province, à une langue, à une confession et à la couronne. Cette réalité permet de mieux comprendre la nostalgie exprimée par certains écrivains de l'ancien monde austro-hongrois, tels Stefan Zweig ou Joseph Roth. Toutefois, le livre ne doit pas être lu comme une simple célébration d'une harmonie disparue. L'unité impériale s'est aussi accompagnée de centralisation, de conflits sociaux et nationaux, ainsi que de pratiques autoritaires selon les périodes. Sa fragilité apparaît lorsque les aspirations nationales exigent une représentation et une souveraineté que la structure dynastique peine à intégrer. L'intérêt de cette partie de sa saga est donc analytique, elle montre que la diversité peut être administrée durablement, mais qu'elle ne se maintient pas sans compromis politique crédible ni sans capacité à adapter les institutions. En dernier lieu, de François-Joseph à Charles Ier, les drames privés au cœur de l'effondrement impérial, la partie finale de la saga accorde une place importante au dernier Habsbourg. Car l'effacement de la monarchie ne peut être comprise seulement comme une conséquence abstraite de la Première Guerre mondiale. Le long règne de François-Joseph incarne à la fois la continuité de la maison et son entrée dans une époque de crise accélérée. Les drames familiaux, abondamment associés dans la mémoire européenne à cette cour, notamment autour de l'impératrice Élisabeth et du prince héritier Rodolphe, ne sont pas de simples épisodes mondains. Ils contribuent à humaniser une institution fondée sur la représentation de la permanence. Ils révèlent aussi la pression exercée par les devoirs dynastiques sur les individus. Avec Charles Ier, dernier empereur d'Autriche-Hongrie, le récit atteint le moment où les ressources traditionnelles de la monarchie ne suffisent plus. La guerre totale, les revendications nationales et la désagrégation politique de 1918 emportent l'édifice impérial. Jean Descartes suit cette chute comme la fin d'un monde, sans confondre la disparition de la dynastie avec la disparition de son héritage. Les Habsbourg demeurent en effet associés à Vienne, à une culture de cour, à des réalisations artistiques et à une mémoire européenne complexe. La consultation de témoignages de Zita et d'Otto de Habsbourg apporte, dans ce cadre, une proximité particulière avec la mémoire familiale des derniers temps de la monarchie. En conclusion, la saga des Habsbourg s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent disposer d'une vue d'ensemble lisible sur une dynastie souvent connue par fragments Charles Quint et l'Espagne, Marie-Thérèse et les réformes du XVIIIe siècle, Sissi et François-Joseph ou encore la fin de l'Autriche-Hongrie. Elle convient particulièrement à ceux qui cherchent à relier ces figures et ces épisodes dans une même continuité familiale et européenne. Le bénéfice intellectuel principal du livre est de faire comprendre que les Habsbourg ne sont pas seulement une succession de souverains, ils offrent un observatoire de la formation. Des États, de la diplomatie matrimoniale, de la compétition impériale et de la gestion d'ensembles multinationaux. Par rapport à une monographie universitaire centrée sur une période, une institution ou un territoire, Jean Descartes privilégie l'ampleur chronologique et l'incarnation. Son approche de biographe et de conteur des grandes dynasties rend les mécanismes politiques plus concrets en les rapportant au tempérament, aux alliances et aux crises des membres de la famille. L'ouvrage se distingue aussi par son ancrage documentaire revendiqué, archives consultées, parcours des lieux de mémoire habsbourgeois et témoignages de Zita et d'Otto de Habsbourg. Cette orientation ne remplace pas les études spécialisées sur le Saint-Empire ou l'Autriche-Hongrie, mais elle en constitue une excellente porte d'entrée. Pour le lecteur francophone, elle a enfin le mérite de déplacer le regard au-delà du récit national français et de restituer la profondeur continentale d'une histoire qui a contribué à façonner l'Europe moderne. Si vous souhaitez soutenir Jean Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.